BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous. Jusqu'à 18h, on va vivre tous les moments clés de cette séance. Bien évidemment, il y a un titre à surveiller aujourd'hui à la Bourse de Paris. C'est une mid-cap, Compagnie des Alpes. Quelle belle publication quand même, Compagnie des Alpes, et les perspectives, notamment pour cet été, très favorables. Le titre aujourd'hui gagne plus de 6%. On va zoomer sur cette valeur Compagnie des Alpes. Et puis dans quelques minutes, Michael Nizard sera avec nous. Il rendra justice au marché dans la Bourse Cash. Ce sera à 15h40. Mais d'abord, Wall Street est en train d'ouvrir. Direction New York. New York, où il est 9h30, USA Today, nos experts sont en place. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau, bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et Étienne Braque, bien sûr, depuis la Tour Euronext, bonjour Étienne. Comment Wall Street, Étienne, se réveille-t-il?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est une séance dans le vert pour l'instant, une hausse timide après une séance compliquée hier, puisque malgré l'envolée de 9% de Nvidia, le Nasdaq a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a même vécu sa pire séance hier depuis mars 2023 avec une baisse de 1,5%. Et là aujourd'hui, l'indice Dow Jones reprend 0,2% à 39 135 points. Vous avez le S&P 500 qui est toujours en deçà des 5300 points à 5285 points, malgré une hausse de 0,3%, plus 0,3% également pour l'indice Nasdaq, Nvidia qui fait toujours l'actualité. Aujourd'hui, nous en parlerons dans un instant avec John Plassard. Pour l'instant, sur l'ensemble de la semaine, vous avez un S&P 500 qui cède 0,5%. Le Dow Jones perd un peu plus de 2%. C'est sa pire semaine de l'année. Quand le Nasdaq, de son côté, prend 0,3% sur l'ensemble de la semaine. Du côté des valeurs à suivre également, aujourd'hui, vous avez Workday qui est spécialiste du logiciel, notamment pour les entreprises. Titre qui perd 12% avec des prévisions qui peinent à convaincre. Et puis, un dernier mot d'Apple qui se distingue aujourd'hui, qui permet à l'indice Nasdaq de surperformer aujourd'hui avec une hausse de plus d'1% d'Apple après avoir perdu 2% hier. Titre qui s'échange actuellement à $188 et donc une ouverture en légère hausse à Wall Street avant un week-end de 3 jours puisqu'il n'y aura pas de cotation lundi aux États-Unis.
C'est un jour férié à venir lundi effectivement aux États-Unis, mais on sera quand même là à USA Today avec John lundi. Voilà, on a pris rendez-vous John, on sera là malgré tout pour parler avec peut-être un peu plus de hauteur et de distance des enjeux en ce moment autour des marchés américains. Les indicateurs du jour, vous avez notamment repéré, John, les commandes de biens durables aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, commandes de biens durables qui se passent toujours assez bien. On est à plus 0,7% en avril, alors que le consensus pariait sur une baisse de 0,8%. Le mois précédent, on était à plus 0,8%, mais qui a été fortement révisé à la baisse puisqu'on était à 2,6%. C'est quand même le troisième mois consécutif de hausse. Et ce qui est très intéressant de noter, Guillaume, c'est que les commandes de biens d'équipement non militaires, qui est un indicateur étroitement surveillé du plan des dépenses des entreprises, eh bien, ont augmenté de 0,3% d'avril après une baisse de 0,1% en mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, tous ces chiffres aujourd'hui? C'est que l'économie américaine va toujours assez bien et ça nous a été prouvé hier par les PMI manufacturiers et des services, ce qui a fait dévisser le marché hier soir.
Effectivement, cette économie américaine sacrément résiliente, sacrément dynamique, et on a un 10 ans américain à 4,5 sur un plus haut de 10 jours désormais. Le 10 ans américain, on en parlera, ce retour des petites tensions obligataires et des anticipations de baisse de taux qui se réduisent à nouveau pour la suite de l'année du côté des États-Unis. Et puis, il faut aussi suivre aujourd'hui, Étienne, l'immobilier commercial américain qui vient aussi perturber le moral des investisseurs.
En effet, vous parliez du 10 ans américain, c'est lié à la remontée des taux avec des pertes importantes pour le secteur immobilier, avec forcément une remontée des taux qui fait des dégâts, John Plassard.
Oui, énormément. On savait que l'immobilier était évidemment à la traîne depuis un certain temps à cause de, évidemment, la pandémie, les travailleurs à domicile, etc. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis, tenez-vous bien, la crise financière, la crise de 2008, les investisseurs en obligations de premier ordre adossés à des créances immobilières commerciales commence à subir des pertes. Alors c'est la banque Barclays qui relève que les acheteurs de la partie triple A, vous savez, la meilleure partie d'une obligation de 308 millions de dollars adossée à l'hypothèque d'un immeuble au centre de Manhattan, donc théoriquement il n'y a pas de risque, eh bien ont récupéré moins de 3/4 de leur investissement initial, puisque le prêt a été vendu avec une très forte décote. Donc même sur du triple A où vous êtes censé recouvrer 100% de votre prêt, eh bien ici c'est 3/4. Et la banque Barclays rappelle aussi ici que les gens qui avaient leur prêt sur des tranches qui étaient inférieures, eh bien ont tout perdu ou quasiment. Donc on voit ici que sur l'immobilier commercial, on pensait que le pire était passé, mais pas du tout, ça va encore mal aux États-Unis.
Oui, ce signal sur l'immobilier commercial qu'il ne faut surtout pas arrêter de suivre, effectivement. Wall Street vient d'ouvrir, c'était il y a 6 minutes et ça se passe bien. On est en hausse sur les 3 indices américains de 0,3%, quels que soient les indices, tous progressent en ce moment de 0,3%. On va parler bien sûr d'Nvidia au lendemain de son incroyable ascension, son incroyable envolée encore hier. Que fait Nvidia aujourd'hui? Réponse dans un instant. Mais d'abord, la campagne américaine, John. On est à 165 jours de la présidentielle. Nikki Haley a fini par craquer, John. Elle annonce que finalement, malgré tout ce qu'elle avait pu dire au cœur de sa campagne des primaires républicaines, finalement, elle votera bien pour Donald Trump.
Et sa prise de parole était très très attendue puisque c'est la première intervention publique depuis qu'elle s'est retirée, comme vous l'avez dit, de la course présidentielle en mars. Et elle a dit, tenez-vous bien, que ses priorités en tant qu'électrice américaine étaient de soutenir un président, tenez-vous bien, qui soutiendrait les alliés de l'Amérique, demanderait des comptes aux ennemis, sécuriserait les frontières, soutiendrait le capitalisme et la liberté et qui réduirait la dette nationale américaine. Tout ça, eh bien, ce serait potentiellement Trump. Elle dit que Trump n'est pas parfait, mais qu'elle voterait pour lui. Pourquoi ? Parce que Biden a été, je le cite, une catastrophe pour les États-Unis. Donc on voit ici que, bien évidemment, Nikki Haley suit le président, le potentiel prochain président, donc Donald Trump. Faire très attention ici parce que potentiellement, eh bien, une partie de l'électorat de Nikki Haley pourrait aller vers les démocrates. On sait qu'elle était celle qui était la moins dure dans le camp républicain. Donc il y a une interrogation à savoir. Qu'est-ce que vont faire les électeurs de Nikki Haley?
Effectivement, on va suivre tout ça grâce à vous, ce point quotidien sur la campagne électorale américaine. Et prochain épisode, lundi, hein, puisqu'on sera ensemble lundi. USA Today sera bien ouvert lundi, même si les marchés américains, eux, seront fermés. Ce sera un très long week-end aux États-Unis. Hier, Étienne, Nvidia a fait des étincelles sur le marché américain. Qu'en est-il aujourd'hui?
Eh bien, la hausse se poursuit avec un nouveau record qui est touché pour Nvidia grâce à une hausse de 0,3% à l'instant, toujours au-delà des 1 000 $ Nvidia. John Plassard, malgré une mauvaise nouvelle aujourd'hui, notamment sur le marché chinois.
Ouais, exactement. On pensait que, évidemment, on pourrait avoir quelques prises de bénéfices, mais on a eu des informations, alors qui doivent bien évidemment être confirmées, mais que la puce destinée à l'intelligence artificielle conçue par Nvidia pour le marché chinois, je vous rappelle qu'ils font des puces qui sont moins performantes pour le marché chinois, eh bien, ferait un début en demi-teinte sous fond d'offres excédentaires qui a contraint le groupe de proposer son produit à un prix inférieur au concurrent chinois qui est Huawei. Donc ici, c'est la première fois qu'on entend une demi-mauvaise nouvelle, je dirais, mais ça n'impacte toujours pas le cours de bourse de Nvidia.
Oui, sur des nouveaux plus historiques, donc ce cours de bourse encore aujourd'hui au firmament qui vient tutoyer les étoiles, un peu plus près des étoiles. Aujourd'hui, Nvidia, on va suivre à nouveau cette valeur au cœur de BFM Bourse tout au long de l'après-midi. L'univers des semi-conducteurs aussi, ici en Europe, connecté cet univers, bien sûr, de très très près à l'intelligence artificielle. Mais la vie, c'est aussi des burgers, surtout aux États-Unis, John. On a une véritable guerre des burgers là qui est en train de se mettre en place. Il faut nous expliquer. Il y a quelques jours, vous nous parliez de McDonald's qui annonçait un menu à 5 $, 5 petits dollars avec des petites frites à l'intérieur à partir de juin pour voilà combattre effectivement les effets de l'inflation pour les ménages. Un menu low cost pour redevenir accessible au très très grand public. Le problème, c'est que McDonald's fait des émules et n'est plus seul à faire ce genre d'offre, John.
Oui, et on se souvient que l'annonce sur McDonald's avait fait saliver Étienne. Eh bien, tenez-vous bien, Burger King va faire aussi un menu à 5 $ et va le proposer avant juin, c'est-à-dire dans les jours qui arrivent. Et tenez-vous bien, pour 5 $, c'est-à-dire moins de 5 €, vous allez avoir un choix entre 3 sandwichs avec des nuggets, des frites et une boisson. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que Burger King a déclaré que cette promotion durerait plusieurs mois. On se souvient que McDonald's avait dit que ça ne durait que le mois de juin. Et ici, on est dans une situation où, bien évidemment, les Américains, face à l'inflation, eh bien, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et il y a un sondage qui vient d'être publié qui dit que 78% des Américains disent que la restauration rapide est un luxe parce qu'elle est devenue trop chère. La restauration rapide, pour près de 80% des Américains, est un luxe, tenez-vous bien. Et donc, bien évidemment, c'est l'inflation.
La guerre des burgers est donc lancée après le menu à 5 dollars de McDonald's. Avant même le menu de McDonald's, il y aura celui de Burger King donc, qui arrivera un petit peu avant. On imagine que vous êtes heureux, effectivement, Étienne, parce que le public de BFM Bourse est au courant. Étienne est un fan de burgers. Vous ne pouvez pas voir Étienne sans le voir en train de grignoter un burger ou de regarder un menu burger. Enfin, c'est absolument insensé.
Je devrais venir plus souvent à la rédaction, mon cher Guillaume. Vous me connaissez mal, apparemment.
Étienne qui circule aussi en Tesla, bien sûr, pour nous rejoindre le soir depuis La Défense, la Tour Euronext, au cœur de la rédaction. Et ce type Tesla, en tout cas, que nous tous, on suit très très près, avec une bonne raison de le faire supplémentaire aujourd'hui, Étienne.
Oui, le titre Tesla qui prend un peu plus d'1% aujourd'hui, au-delà des 560 dollars, avec pourtant une mauvaise nouvelle, John Plassard, une nouvelle fois en Chine. Il y a deux minutes, on parlait de la Chine avec Nvidia. Là aussi, c'est compliqué pour Tesla qui revoit à la baisse ses prévisions de production.
Bah exactement, de son modèle Y, d'un pourcentage de deux chiffres dans son usine de Shanghai. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on a eu les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles qui montrent que la production du modèle Y en Chine s'élevait à 50 000 unités en mars, à 36 000 unités en avril, soit une baisse respective de 18% et de 33% sur un an. 33% de production au moins en avril pour Tesla dans l'usine de Shanghai. Donc évidemment, on sait, une des raisons, c'est la compétition et la concurrence effrénée des groupes chinois qui vendent évidemment des modèles un peu moins chers. Mais ici, évidemment, à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, eh bien l'action monte. Et c'est le contraire lorsqu'on a une bonne nouvelle.
Merci beaucoup à tous les deux. USA Today, John Plassard, donc, qui sera avec nous à nouveau lundi depuis les bureaux de Mirabeau. Bon week-end, John. Profitez bien. Étienne Braque aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext tout au long de l'après-midi. À tout de suite, Étienne. Et dans quelques minutes, à 16h10. Allez, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. On sera avec l'une des meilleures gérantes actions françaises. C'est Diane Bruno pour Eleva Capital. Elle sera avec nous. Diane, c'est un privilège de l'avoir régulièrement à nos côtés dans Valeur Ajoutée. Elle nous dévoilera cette valeur sur laquelle elle émet aujourd'hui une opinion favorable. Donc rendez-vous aux alentours de 16h10. Pour l'heure, il est 15h44, c'est la Bourse Cash. Mickaël Nizard nous rejoint pour Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Mickaël.
Bonjour Guillaume.
Mickaël Nizard vient aujourd'hui rendre justice. Vous êtes sûr de vouloir le faire, Mickaël ?
Oui.
Pour vous, et c'est votre message aujourd'hui aux investisseurs, pour vous, malgré les records des indices, il n'y a pas encore d'exubérance en bourse. Ce message, vous l'assumez ?
Oui, je l'assume.
Pas encore d'exubérance en bourse, d'après vous, alors que la volatilité semble endormie, alors que les indices sont au plus haut, vous dites, on n'est pas encore en zone d'exubérance. Qu'est-ce qui vous amène à, du coup, rester serein face à la hausse des marchés? Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'effectivement, les marchés sont encore modérés?
Effectivement, enfin, quand on regarde l'historique récent ou sur les 12 derniers mois, les 18 derniers mois, on voit effectivement des performances boursières qui sont vraiment très enviables. Et on peut se poser la question de la soutenabilité finalement de cette performance, ce rythme de performance. Néanmoins, il nous semble en fait que les marchés restent encore porteurs, parce que quand vous regardez finalement les grands drivers, les grands facteurs finalement qui déterminent les marchés actions, vous avez d'abord le taux sans risque ou le taux 10 ans. Vous avez juste après, donc ça représente finalement le facteur macro. Vous avez un facteur micro qui représente plutôt les earnings ou la cherté en regardant notamment le price earnings, donc les PER, les multiples de valorisation. Et puis vous avez ensuite un troisième paramètre qui représente la prime de risque liée à l'incertitude géopolitique, macroéconomique, etc. Quand on regarde finalement le premier paramètre, on s'aperçoit finalement que jusqu'à présent, les bourses mondiales, notamment les indices américains, les indices européens principalement, mais aussi les économies des pays avancés, se sont particulièrement bien acclimatées finalement à un niveau de taux qui a sensiblement remonté. Quand vous regardez le coût du capital dans l'économie réelle ou quand vous regardez la hausse des taux directeurs ou la hausse des taux de 10 ans, elle a fortement remonté en l'espace de 2 ans, notamment depuis fin 21. Mmh. Et en fait, ce qu'on note, c'est qu'on a vraiment tourné le dos à l'ère de taux réel négatif. Et malgré tout, l'économie a particulièrement bien digéré finalement ce premier facteur macro, ouais, qui est la hausse des taux. Parce qu'effectivement, il y a eu une impulsion fiscale qui a été particulièrement forte, qui a représenté près de 3% finalement au maximum aux États-Unis en termes de contribution au PIB. Après, quand vous regardez le deuxième facteur, qui est plutôt lié à la microéconomie, donc les entreprises, on voit en fait que on n'est pas du tout dans la période des années 2000, où en fait dans les années 2000 vous aviez beaucoup de croissance non profitable, vous aviez des multiples de valorisation qui étaient très élevés avec des progression de cours qui allait beaucoup plus vite que la progression des BPA, des bénéfices par action. Quand vous regardez cette période, notamment qu'on peut dater depuis fin 21. Depuis fin 21, vous avez la résurgence du facteur inflationniste. Donc c'est intéressant de regarder depuis fin 21 qu'est-ce qui se passe. Eh bien en fait, vous avez notamment pour les méga caps dans la technologie, les six grandes valeurs, en fait, on voit que les price earnings, donc les multiples de valorisation, ont eu tendance à baisser de l'ordre de 7 points. Et que les bénéfices par action ont progressé de 50%. Ce qui est plus intéressant et plus sain encore, c'est quand vous regardez les 75% de la cote restante, vous voyez que finalement les multiples de valorisation n'ont pas bougé, ils sont restés plutôt stables, et les livraisons de bénéfices ont progressé légèrement de l'ordre de 2%. Donc on n'est pas du tout dans un système où finalement on est dans une exubérance, on est plutôt dans un marché qui est encore porteur et qui attend les premières baisses des taux. La vraie question, ce sera quand les baisses des taux arriveront. À ce moment-là, est-ce qu'effectivement ces baisses des taux auront lieu parce que justement la croissance a fortement baissé, mais ça sera un sujet qu'il faudra aborder certainement dans l'année.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en début d'année, ça paraît il y a longtemps, mais c'était pas il y a si longtemps, en début d'année, le marché misait sur 6 baisses de taux de la Fed cette année, en 2024. 6 baisses de taux, là on est à peine une baisse de taux anticipée. Et pourtant, les marchés, les actions sont quand même sur des records. C'est tout à fait fou, quoi.
Qu'on faisait partie de ceux qui voyaient plutôt des baisses des taux plus importantes que celles qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez la Banque Centrale Européenne, on est à 55, 60 BP de baisse des taux. On est entre 50 et 75 BP. Et finalement, on a du mal à voir une banque centrale baisser de plus de deux fois sans que la Fédérale Réserve ne baisse ses taux. Donc ce qui veut dire que au-delà de 50 BP de baisse de la BCE, il faudra absolument que la Fédérale Réserve prenne le relais pour pouvoir justement poursuivre le cycle de baisse sur la zone euro.
Bon, il estime donc qu'il n'y a pas d'exubérance de marché malgré les records des indices. Étienne nous appelle d'ailleurs depuis la tour Euronext. La priorité, bien sûr, à la séance en direct dans les yeux, cette séance. On la regarde à travers votre regard, Étienne, depuis cette tour Euronext. Notre accès exclusif au CAC 40. Comment ça se passe cet après-midi ?
Bah écoutez, vous avez une nouvelle séance de consolidation avec un CAC 40 qui cède 0,2% après avoir déjà perdu 0,3% hier sur l'ensemble de la semaine. Vous avez un CAC 40 qui est négatif. Il n'y a eu qu'une seule séance dans le vert. C'était mercredi, moins 1% pour l'instant en données hebdomadaires. À noter que du côté de Wall Street, vous avez trois indices américains qui tentent de se reprendre, mais c'est compliqué. Et puis surtout, ce qui est frappant, je me répète de jour en jour, c'est les volumes d'échanges qui sont vraiment très faibles, puisque depuis le début de la semaine, vous aviez moins de 3 milliards d'euros négociés au fixing. Pour l'instant, vous avez 875 millions d'euros, donc des carnets d'ordre qui sont vraiment très creux, un marché qui est en manque de conviction, qui cherche un petit peu des idées et surtout un manque de catalyseur.
Manque de catalyseur, d'autant qu'on a un horizon sur les taux, effectivement, qui reste très très incertain. C'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux, Mickaël. On va vous la soumettre, cette question, sur notre fil XBFM Bourse. Vous pouvez, vous tous qui nous suivez en direct, vous y abonner. Notre fil LinkedIn également. Pour vous, compte tenu des indicateurs de la semaine aux États-Unis, pour vous, la Fed baissera ses taux cette année une fois ? Première hypothèse, deux fois ou zéro fois. Mickaël, votre réponse ?
Je dirais plutôt deux fois.
Plutôt deux fois qu'une. C'est l'occasion de le dire.
Ouais. Pour deux raisons. En fait, en tout cas, il y aura deux conditions qui seront un prérequis finalement pour qu'on ait cette baisse des taux. Premièrement, soit vous avez finalement une conjoncture et une demande qui commence à faiblir, soit vous avez des conditions d'emploi qui commencent à s'affadir. Donc, quand on regarde finalement le calendrier, on a juillet, on a septembre. Il nous semble que juillet, c'est encore un petit peu tôt, parce que finalement, il faudrait avoir au moins trois bonnes nouvelles sur l'inflation. Je rappelle une chose, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'inflation, le corps PCE que regarde beaucoup la Fédérale Réserve, on est sur du 3 mois annualisé à 4,5%. Oui. Donc, elle ne peut pas se permettre, et contrairement à ce qu'on pensait en début d'année, elle ne peut pas se permettre de baisser ni en juin, et certainement pas en juillet, parce qu'on a un niveau de taux annualisé d'inflation qui est encore trop élevé. Mais par contre, d'ici les trois prochains mois, il nous semble qu'on aura des facteurs cycliques qui prendront l'avantage, qui prédomineront par rapport aux facteurs acycliques sur l'inflation.
Là, on a un nouvel indicateur américain cet après-midi. Ce sont les commandes de biens durables. Elles sont supérieures aux attentes. Hier, les PMI américains étaient supérieurs aux attentes. Les inscriptions au chômage inférieures aux attentes. Bref, tout converge pour l'instant sur une activité américaine encore très très forte. Peut-être une inflation collante. C'est pour ça que le marché révise peu à peu à la baisse, en tout cas ses anticipations de baisse de taux. Et nos auditeurs et téléspectateurs aussi. Vous avez été nombreux à répondre sur notre fil X et notre fil LinkedIn et vous êtes une majorité de 50% à estimer qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année de la part de la Fed. 50% d'entre vous donc estiment qu'il y aura zéro baisse de taux, 42% une baisse et à peine 8% deux baisses. Ouais, vraiment le pessimisme là-dessus, hein, sur le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. On y reviendra aussi avec nos économistes dans un instant. En termes d'allocation, du coup, comment est-ce que vous ajustez le tir en ce moment ?
Alors en fait, on a deux convictions fortes. La première, c'est qu'en fait, plus on va dans l'année, justement, avec des chiffres qui vont être de plus en plus rassurants sur l'inflation, plus on va aller dans un sens où on va trouver un cap, un niveau plafond sur les taux d'intérêt. Ça, c'est notre première conviction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les taux 10 ans US ou européens, ça redevient assez intéressant d'acheter de la duration et donc de la sensibilité au risque de taux. Parce qu'on trouve un cap sur les taux. Ce qu'on n'avait pas forcément comme information il y a deux mois. On se rappelle, il y a deux mois, il y avait un risque de remontée des taux. Et on a vraiment eu cette assurance de la part de M. Powell et encore récemment de M. Waller qui va dans le sens du pivot avec prochainement plutôt des baisses des taux, mais surtout pas des hausses de taux. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que le cap est bien sur les taux. La deuxième conviction assez forte qu'on a, c'est qu'il faut rester positif sur les marchés actions, sur l'Europe, sur les États-Unis, et progressivement, plus on s'approchera de l'imminence d'une baisse des taux, plus il faudra diversifier sa surpondération action vers les pays émergents et notamment l'Amérique latine, parce qu'il y a un narratif intéressant sur les matières premières et notamment les métaux industriels.
Oui, on reproche souvent aux pays d'Amérique du Sud de fabriquer trop peu de produits à forte valeur ajoutée, en revanche d'être très dépendant de matières premières, mais il y a des périodes dans le cycle où c'est plus favorable. Et vous dites, pour l'Amérique latine, là, le cycle est plus favorable en l'occurrence.
Exactement.
Bon, Michael Nizar nous accompagnait pour Edmond Rothschild Asset Management. Si vous avez trouvé Michael bon, intéressant, s'il vous a convaincu, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Parce qu'ils pourront le retrouver en replay. BFM Business, BFM Bourse, c'est en direct, bien sûr, mais aussi à retrouver en replay et en podcast sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique replay, c'est très très simple. Michael, merci d'être passé nous voir.
Merci, Guillaume.
Le CAC 40 est toujours en repli. En ce vendredi après-midi, on perd, allez, gentiment, 0,1%, une valeur qui surperforme Compagnie des Alpes. On en parlera dans un instant. Le titre Compagnie des Alpes gagne 6% en ce moment.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Cette question de Marc, tiens, un autre auditeur. Le private equity semble bien mieux parvenir à valoriser les entreprises que la bourse, nous dit Marc. Qu'en est-il du private equity en co-investissement ? Stéphane Rudzinski vient tenter de répondre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Guillaume.
Président de Rétorès Finance, bienvenue. Il existe des fonds de private equity en co-investissement ?
Oui, exactement, ça existe. Donc, dans l'univers du private equity, je vous rappelle que ça consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. On veut les garder un certain temps, les revendre avec un profit. Généralement, ces fonds investissent en direct dans les sociétés. Et ces gérants principaux, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, ouvrent en fait leur tour de table à des gérants partenaires qui viennent investir à côté de ces fonds principaux dans les mêmes conditions en fait que le fonds principal.
On peut donner un exemple comme ça, une illustration pour que tout le monde comprenne bien la valeur ajoutée de ces fonds co-investissement.
Oui, bien sûr. Imaginons KKR, qui est une grosse société de gestion de private equity, qui a une vue sur une société technologique très prometteuse et qui envisage d'investir 200 millions d'euros, par exemple. KKR peut inviter autour de table, en fait, des gérants partenaires à investir 50 millions d'euros. Ces gérants partenaires vont investir exactement dans les mêmes conditions que KKR, en bénéficiant de l'expertise de KKR et exactement aux mêmes conditions de frais et de valorisation.
Pourquoi ça se développe particulièrement maintenant, en l'occurrence ?
Alors, ça se développe pour deux raisons principales, une raison de diversification et une raison réglementaire. Il faut bien avoir conscience que la classe d'actifs du private equity a connu un essor colossal ces 10 dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'on post-Lehman, en 2009, le volume d'investissement dans le private equity était de l'ordre de 100 milliards d'euros. En 2022, on était proche de 600 milliards d'euros. Donc les gérants, même de gros fonds de private equity, pour diversifier leur position, ont besoin de co-investisseurs à leur côté. C'est la première raison. La deuxième raison, elle est réglementaire, parce qu'associée à cette hausse du volume d'investissement, les tickets d'investissement moyens ont beaucoup augmenté. Post-Lehman, on était sur des tickets d'investissement de l'ordre de 100 millions d'euros, 120 millions d'euros par deal. Aujourd'hui, on est sur des deals moyens de l'ordre de 900 millions d'euros. Or, ces fonds de private equity ont des ratios réglementaires à respecter, des ratios d'emprise. Et sur l'argent qu'ils lèvent, ils ne peuvent pas investir plus de 10 à 15% de l'engagement sur une participation, d'où la nécessité d'avoir des co-investisseurs à leur côté.
Et pour les investisseurs justement, ou les co-investisseurs, et puis surtout ceux qui choisissent de mettre leur argent dans ces fonds, on rappelle de private equity en co-investissement. C'est quoi l'avantage, c'est quoi l'intérêt par rapport au private equity classique?
Alors il y a 5 avantages majeurs selon moi. Le premier avantage, c'est que les co-investisseurs investissent directement dans les participations aux côtés donc de ces fonds leaders, et donc ont les mêmes performances sur les participations que les fonds. Le deuxième avantage, vraiment très important, c'est que il y a une double sélection en fait dans le choix des participations. Il y a le fonds leader qui va faire sa sélection, qui va être revalidé finalement par le fonds de co-investissement. Pour vous donner quelques chiffres pour que tout le monde comprenne bien, généralement un fonds de private equity va analyser 100 deals pour investir dans 3 deals. Le fonds de co-investissement, lui, va analyser ces 3 deals et appliquer à peu près les mêmes ratios. C'est-à-dire qu'on est sur du 3%, 2-3%. Et sur 1000 opportunités d'investissement, pour un fonds de co-investissement, finalement, il va investir sur une opportunité. Donc c'est très très sélectif. L'autre avantage qu'on a et qui est assez incroyable, c'est que l'argent va être déployé très rapidement en fait sur un compte d'un fonds de co-investissement par rapport à un fonds principal. Je vais faire une analogie avec le marché de l'immobilier. Lorsque vous recherchez un appartement, vous avez 3 phases. Vous avez la période de recherche de votre appartement, qui va prendre entre 3, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Vous avez signé votre compromis de vente. 3-4 mois après, vous allez passer à l'acte authentique. Eh bien, le fonds de co-investissement, lui, va intervenir entre la signature du compromis et l'acte authentique. Ce qui fait qu'il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il va déployer son argent généralement très rapidement. Il va déployer 60 à 80% de son argent en 3 à 6 mois. La totalité en 12 à 18 mois, quand un fonds de private equity va lui débloquer son argent sur 5 ans. Ce qui fait que les multiples que vous allez avoir avec du co-investissement, généralement x2, vous allez les avoir en 6-7 ans avec du co-invest, et du 10 ans sur un fonds principal.
Et les frais, c'est comment par rapport au private equity normal?
Alors les frais sont généralement inférieurs. D'accord. Parce que pour deux raisons. La première, c'est que dans la mesure où vous n'avez pas toutes les équipes en fait qui font la sélection des deals, toutes les due deals, etc., vous avez des équipes plus allégées. Et comme vous investissez en direct, vous n'avez pas de surcouche de frais.
Stéphane Rudzinski, merci beaucoup de nous avoir. Vous ne pouvez pas s'en empêcher, Fabien, notre réalisateur. Merci Stéphane. Président de Rétorès Finance. Oui, ça veut dire que je suis en retard.